Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Frédéric Charillon est notre invité. Son dernier ouvrage, Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits, est paru aux éditions Odile Jacob. Frédéric Charillon est professeur des universités en sciences politiques à l'université Clermont-Auvergne et conseiller diplomatie et défense à l'ESSEC. Bonjour.
Bonjour.
Cette semaine a vu le chef de la diplomatie russe se prévaloir de l'accord d'Istanbul sur les céréales pour mener au pas de charge une tournée africaine, plus de 13 000 km en 5 jours pour une offensive de charme face à un continent menacé par la plus grave crise alimentaire de cette décennie. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron était lui aussi en Afrique, étape au Cameroun, au Bénin, en Guinée-Bissau. Cet exemple, Frédéric Charillon, met au centre de l'actualité votre lecture des relations internationales faites d'influence. On peut aisément imaginer que les narratifs à la fois de Sergueï Lavrov et d'Emmanuel Macron en Afrique n'a pas été le même.
Non, bien sûr, on est effectivement face à une illustration tout à fait criante des guerres d'influence, parce que, et là on voit bien que le théâtre de cette guerre, c'est l'Afrique. Ça fait un petit moment que ça dure. En réalité, dès que les troupes françaises ont commencé à quitter Centrafrique et ont commencé à connaître de plus en plus de difficultés au Mali, on a vu à l'œuvre, alors par des moyens parfois indirects, le groupe Wagner notamment, mais on a bien vu que la Russie cherchait à prendre position, si je puis dire, en Afrique, et à profiter des difficultés de la France. Pas seulement dans ces endroits-là. En réalité, le groupe Wagner il est extrêmement actif ailleurs en Afrique. La diplomatie russe a repris pied sur plusieurs terrains qu'elle avait dû abandonner après la chute de l'Union soviétique, depuis le Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique, en passant par d'autres régions du monde. Mais on voit bien là qu'on est sur un échiquier. Et sur cet échiquier, on déplace ses pions et le but, c'est d'y être influent. Alors, qu'est-ce qu'on cherche c'est toute la question. Est-ce qu'on cherche des ressources naturelles? Est-ce qu'on cherche des alliés pour voter avec soi aux Nations Unies? Est-ce qu'on cherche à améliorer son image? On cherche en réalité un peu tout ça à la fois. Mais là, on voit bien qu'il y a une guerre vraiment d'influence entre la France et la Russie. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que ça fait très longtemps qu'on dit que c'est la Chine aujourd'hui qui est partout en Afrique, etc. Et là, on voit vraiment l'ancienne puissance coloniale française, qui évidemment essaye de refaire totalement cette image-là et de la transformer complètement aujourd'hui, et puis la Russie, les deux s'accusant d'ailleurs mutuellement d'être des empires coloniaux, ce qui est assez intéressant.
D'ailleurs, c'est un argument sur lequel, on n'en a pas encore parlé, le président turc, M. Erdogan, joue la Turquie, qui est aussi très présente en Afrique, et lui arrive en Afrique en disant, mais voilà, s'il y a une puissance qui n'a pas été une puissance coloniale, c'est bien la Turquie. Oubliant tout de même au passage l'Empire ottoman et tout ce qui s'est passé sous... donc c'est assez intéressant de...
Ce sont des empires, c'est ça qui est assez extraordinaire. Parce que, et d'ailleurs, dans le livre, je parle à un moment, il y a un chapitre qui est consacré à ce retour des politiques étrangères impériales. Mmh. Alors, pas impérialiste au sens où on imagine... Enfin, en tout cas, c'était valable avant l'Ukraine, on n'imagine pas une invasion militaire, une reconquête militaire de tout l'empire. On a craint un moment que la Russie souhaite presque reprendre les pays d'Europe centrale et orientale. Il n'en est pas question, comme on n'imagine pas la Turquie envahir les pays arabes, anciens territoires de l'Empire ottoman. Mais il y a des politiques étrangères impériales qui reviennent au devant de la scène, au sens où il s'agit pour des pays qui ont été les références culturelles de régions entières, de rappeler ça avec un argument fort qui est de dire du temps où nous prenions tout cela en charge, où nous nous occupions de ces situations politiques, ça allait mieux. Il y avait un ordre respecté. Regardez ce qu'en ont fait les Occidentaux, regardez ce qu'en ont fait les États-Unis, c'est l'anarchie. Nous avions un ordre culturel, politique, qui était accepté, qui était naturel, et qu'il est temps de retrouver. C'est pas dit comme ça, mais on le sent très fortement, avec en plus un point commun à trois pays, qui sont la Turquie, la Chine, la Russie. Ce sont trois anciens empires. C'est que les trois sont aujourd'hui dirigés par ce qu'on pourrait appeler un homme fort. Quelqu'un qui se sent investi de la mission de redonner à son pays toute sa place dans le monde et donc qui va jouer beaucoup sur cette mémoire impériale. Alors encore une fois, pas au sens d'une conquête militaire, mais au sens où on va s'adresser à des populations pour leur dire tout de même, souvenez-vous, c'était autre chose du temps où notre capitale prenait en charge l'ordre politique dans cette région. C'est un peu l'argument de Poutine, c'est l'argument de la Chine en Asie, c'est l'argument de la Turquie au Proche-Orient.
Alors précisément, Frédéric Charillon, est-ce que cette question d'influence exclut, donc on peut parler de soft power, pour trouver un terme en anglais qui lui corresponde. C'est vrai que c'est devenu une constante, en tout cas, disons, depuis au moins 3 décennies. Est-ce que la guerre en Ukraine ne vient pas finalement contredire cette assise du soft power et de l'influence par un retour à la guerre, ou est-ce que l'un et l'autre finalement se tiennent d'une certaine manière?
Non, c'est tout à fait compatible, mais la question que vous posez, c'est la question centrale aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons été aveuglés pendant longtemps par la traduction ou la pratique, on va dire, uniquement occidentale, démocratique, libérale, parce qu'en réalité américaine, de cette notion de soft power. Et donc, nous avons cru, un peu naïvement, que ce qu'on appelait le soft power, c'était le contraire du hard power. Mmh. Et que donc, la diplomatie d'influence se substituait à la diplomatie de la canonnière. Le soft power, c'est ce concept qui a été édulcoré livre après livre par Joseph Nye. C'est un concept très américain qui a été élaboré et discuté beaucoup aux États-Unis, essentiellement pour décrire la politique étrangère américaine. Mmh. C'est-à-dire cette diplomatie de la séduction, aussi bien par des bourses d'études que par l'aura des grandes universités américaines, la possibilité d'attirer à soi les élites du monde tout en séduisant les classes populaires par des séries télévisées, par le cinéma, la littérature, etc. C'était un concept qui a été forgé par les États-Unis et vu depuis les États-Unis, effectivement, le soft power, c'est le contraire du hard power. C'est-à-dire on ne se bat plus, etc., mais on essaye de convaincre les autres, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait vrai. Les États-Unis ont fait beaucoup de guerres en même temps. Mais là, on découvre qu'il y a aussi un soft power, autoritaire. Mmh. Et que ce soft power-là, quand il est repris par la Russie, la Chine ou d'autres, c'est en réalité un soft power qui est fait pour accompagner l'usage de la force. Alors d'abord pour le préparer, c'est-à-dire pour essayer par avance de convaincre les opinions publiques internationales, les esprits des élites internationales, qu'on est dans son bon droit, que nous sommes une puissance qui est là pour le bien, que nous nous opposons aux ignobles impérialistes américains, etc. Et ensuite, quand la guerre se déclenche, quand l'attaque commence, on espère en tout cas avoir ses pions, ses défenseurs, ses relais. C'est pas tout à fait nouveau. Quand on relit l'histoire des guerres mondiales, et notamment de la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien qu'on a déjà ça du côté des puissances autoritaires. C'est-à-dire qu'il y a un parti, il y a toute une série d'individus dans différents pays d'Europe et ailleurs qui, en réalité, étaient tout à fait acquis à la cause de l'Allemagne hitlérienne, qui avait utilisé ça pour préparer sa guerre.
Est-ce que c'est une façon, finalement, d'anesthésier?
Oui, alors c'est pas seulement anesthésier. On anesthésie les masses, mais on cherche des relais actifs parmi les élites ou ce qu'on appelle aujourd'hui les leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir avec soi des parlementaires, des journalistes, des industriels, des universitaires, etc., etc., pour aller défendre ce point de vue. Et aujourd'hui, on le voit très bien avec la Russie, y compris dans un pays comme la France, où on a à la fois des personnages politiques, mais aussi sans doute des intellectuels et autres, qui vont expliquer que, tout de même, la Russie n'est pas forcément le premier fautif, en tout cas pas le seul, etc. etc.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, pour poursuivre, mais rester sur ce registre, vous expliquez très bien, d'ailleurs, dans le livre, c'est assez vertigineux aussi, que pour un régime autoritaire, eh bien, l'influence ne se substitue pas à la force, mais elle permet d'en préparer l'usage, puis de l'accompagner. C'est la lecture de la décision des pays du Sud de ne pas avoir sanctionné la Russie. Est-ce que, voilà, ceci vient illustrer précisément...
Oui. Oui, ça c'est un point majeur parce que bon, d'abord c'est plutôt une mauvaise surprise pour les Occidentaux et c'est pas tout à fait surprenant en réalité. C'est-à-dire que c'est plutôt un désaveu de leur politique. On voit que dans les pays du Sud, on n'a pas du tout la même lecture. Mmh. Alors en réalité, c'est pas forcément une posture pro-russe. C'est plutôt à la fois une posture de prudence, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays du Sud, on estime qu'il est urgent d'attendre. Et que d'ailleurs, il y a tellement de liens avec la Russie qui peuvent être d'ailleurs des exportations d'armes aussi bien que des questions énergétiques ou des exportations diverses et variées. Donc on estime qu'il est urgent d'attendre. Après, il y a des discours beaucoup plus critiques qui disent mais franchement, est-ce que c'est très très différent de ce que les Américains avaient fait en Irak? Et en plus, c'était beaucoup plus loin de chez eux, il n'y avait pas de lien historique, etc. etc. D'autres, toujours dans les pays du Sud, commencent à dire « ces Occidentaux sont fatigants, nous avons des guerres atroces et extrêmement meurtrières en permanence, et là, parce que ça se passe en Europe et près de chez eux, brusquement, ça y est, c'est la guerre mondiale, c'est un conflit majeur, alors que le Yémen et tout le reste, ça n'avait pas eu l'air de les émouvoir, ou la Syrie ou d'autres, ça les avait émus beaucoup moins. » Donc il y a tout ce mélange qui fait qu'aujourd'hui, dans les pays du Sud, il y a vraiment une résistance à la rhétorique occidentale qui consiste à dire ce qui est en train de se passer en Ukraine est très grave. Et puis il y a autre chose, c'est justement, on retrouve la guerre d'influence, c'est qu'on voit bien que des pays comme la Russie ou la Chine jouent aujourd'hui clairement la carte d'un monde post-occidental. Ils estiment qu'il est temps de tourner la page d'un monde dominé par l'Occident, c'est-à-dire par les États-Unis et leurs alliés. Et la cible, le terrain, véritablement, le théâtre d'opération de cette stratégie, ce sont les pays du Sud. Là, très clairement, Pékin, aussi bien que Moscou, et ça explique d'ailleurs aussi, entre autres, hein, la visite, la tournée de Lavrov en Russie, mais aussi les innombrables voyages de Xi Jinping en Afrique et ailleurs, c'est qu'on va jouer sur ce monde non occidental pour dire c'est fini. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, qui à eux trois sont derrière la plupart des interventions militaires, prétendent être les seuls à pouvoir se saisir de du règlement d'un conflit, etc. C'est terminé. Alors en réalité, on a des signes précurseurs de ça depuis un petit moment. En 2010, je crois que c'était en 2010, sur le dossier du nucléaire iranien, déjà, il y a eu une initiative turco-brésilienne. Les Turcs et les Brésiliens, ensemble, c'est l'époque où Lula était président au Brésil, arrive en disant ben, « nous avons une solution avec la Russie ». C'est-à-dire qu'on va, en gros, faire traiter l'uranium en Russie, s'assurer qu'il n'est pas trop enrichi, etc. etc. En tout cas, on a trouvé une solution et les Iraniens sont d'accord. Et ça a été balayé d'un revers de main par les Occidentaux, d'abord par l'administration américaine de l'époque. Mais on a bien vu à ce moment-là qu'il y avait une nouvelle diplomatie qui se mettait en place, qu'il y avait des pays qui n'étaient pas des pays occidentaux et qui commençaient à dire « mais nous aussi, nous avons des solutions à ces conflits ». Qu'est-ce que les Occidentaux ont réussi à faire finalement sur la question palestinienne? Rien. Quels sont leurs résultats sur le nucléaire iranien? Aucun. Eh bien, nous avons une solution. Bon. Ça, c'était le début. Aujourd'hui, on voit bien qu'on sent à Moscou ou à Pékin qu'on estime que le moment est mûr pour dire, voilà, c'est fini, les Occidentaux ont échoué. Maintenant, l'avenir des relations internationales, c'est nous. Et ça a beaucoup de poids et un certain succès dans pas mal de capitales du Sud.
Alors, un poids et pas mal de succès dans pas mal de capitales du Sud, très probablement. En Afrique, on vient d'en parler, je pense à l'Amérique latine, où j'ai entendu récemment, il était l'invité de Géopolitique, l'ancien président de l'Équateur, Rafael Correa. On parlait évidemment de l'influence américaine et puis de l'influence chinoise très forte en Amérique latine et russe. Poser la question de savoir où étaient les Européens dans tout cela. Parce que alors, vous parlez des Occidentaux, monde post-occidental, mais en fait, il y a une demande d'Europe qui est très forte. Et l'Europe ne répond pas de façon satisfaisante, Frédéric Chariot ?
La demande d'Europe, elle commence à faiblir parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de réponse. Il y a eu une demande d'Europe, mais qui a été déçue. Je me souviens, il y avait un article au tout début des années 90 d'un grand politologue britannique qui s'appelle Christopher Hill, qui s'appelait The Expectation Capability Gap, c'est-à-dire le fossé entre les attentes que l'on pouvait avoir à l'égard de l'Europe et la capacité des Européens à répondre à ces attentes. C'était le tout début de la politique étrangère commune que l'on voulait bâtir en Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet d'annonce au début des années 90, le traité de Maastricht, puis l'annonce d'une politique étrangère commune. Les Européens ont dit, voilà, nous allons être un fournisseur, si je puis dire, de services diplomatiques supplémentaires sur le marché. Nous constituons une alternative. Et là, il y a eu une attente très, très forte. Notamment des pays du Sud, qui en avaient un peu assez de ne pouvoir traiter qu'avec les États-Unis. Et puis, il y a eu tout de suite l'échec diplomatique européen en Yougoslavie. Souvenons-nous qu'au tout début, quand la guerre, cette terrible guerre yougoslave a commencé, Jacques Paus, à l'époque, le luxembourgeois, pour le compte de l'Europe, disait « l'heure de l'Europe a sonné, c'est à nous de gérer ce conflit ». On connaît la suite, c'est-à-dire que les accords de Dayton ont lieu aux États-Unis, ce sont les États-Unis qui ont dû intervenir. Et puis ensuite, malheureusement, ça ne s'est pas démenti, c'est-à-dire que les Européens étaient quasiment absents de tous les grands dossiers, y compris ceux qui étaient dans leur environnement stratégique immédiat, comme le Proche-Orient. Où étaient les Européens au moment du processus de paix au Proche-Orient après les années 1993? Où étaient les Européens lorsqu'il a fallu essayer de donner un petit peu d'espoir à la Méditerranée, etc. Bon, et au fil de ces années, la demande d'Europe a commencé à décroître parce que, malheureusement, les pays du Sud ont bien compris que les Européens ne répondaient pas suffisamment. C'est un petit peu injuste, néanmoins, parce que les Européens sont présents financièrement. Ils financent beaucoup de processus, ils financent des constructions d'infrastructures, ils financent des processus électoraux, ils font beaucoup de choses. Mais il leur manque cette espèce de colonne vertébrale politique et stratégique. À partir du moment où on sait que si les choses se passent mal, ils ne réagiront pas et ils n'emploieront pas la force, évidemment, ça les handicape très gravement et ça handicape leur influence. Et c'est là, d'ailleurs, il y a un point tout à fait important où on disait tout à l'heure, le soft power, c'est pas le contraire du hard power. Mais là, on en voit encore une image. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'influence de quelqu'un ? C'est aussi qu'on sait qu'il est fort. Même s'il n'utilise pas sa force, on sait que derrière, il y a une force. Pourquoi les États-Unis sont aussi influents ou la Chine l'est maintenant ? Parce qu'on connaît leur puissance financière derrière et on craint même aussi leur puissance militaire. On pourrait résumer ça par la phrase d'un dialogue de Audiard dans le film 100 000 dollars au soleil, quand Jean-Paul Belmondo répond à Andrea Parisi, « Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Bah, » C'est aussi ça l'influence. Donc le soft power n'est pas le contraire du hard power.
Alors vous évoquez la notion de puissance financière. C'est un élément important de la question de l'influence. C'est l'argent.
Oui.
Parce que l'influence, c'est beaucoup d'argent.
Ah ben, ça coûte Frédéric Charrier. L'influence, ça coûte très cher. Pour avoir une politique d'influence, une stratégie d'influence, il faut commencer par la budgéter. Il faut commencer par savoir combien on met sur la table, combien on est prêt à dépenser pour avoir cette politique d'influence. Quand on dit ce qu'on a peut-être un peu tendance à dire sous nos latitudes, qu'on va décréter une politique d'influence à moyen constant, ça n'a pas de sens. Regardons les pays qui ont eu un certain succès dans leur influence, la Russie, la Turquie, la Chine, le Qatar, évidemment, les pays du Golfe, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Alors, ils ont mis de l'argent dans quoi ? Bah, dans des bourses d'études, dans des grandes réunions internationales qui devaient se passer chez eux pour attirer l'attention du monde sur eux, dans des investissements, les routes de la soie aussi.
Dans le culturel également.
Dans le culturel. Ça coûte très cher, une politique d'influence. Vous ne pouvez pas être influent si vous invitez une personne dans des conditions misérables, dans un hôtel de 5e catégorie, etc. Vous êtes influent si vous invitez dans votre capitale plusieurs dizaines ou centaines de personnalités d'avenir, comme on dit en France, chaque année. C'est-à-dire des gens qui comptent, des acteurs qui sont importants politiquement chez eux et qu'ils sont bien traités et qu'ils repartiront de chez vous en se disant « Ah, quand même, oui, j'ai été bien traité. Deux, c'est un pays qui a des moyens. C'est plutôt bien d'être copain avec eux. » C'est ça, l'influence. Si c'est juste pour faire un tour opérateur à moindre frais, c'est pas de l'influence. Ça coûte cher, l'influence. Il faut le reconnaître. Et ceux qui sont influents aujourd'hui ont mis beaucoup d'argent. Ils ont fait des choix. Ils ont fait des arbitrages budgétaires. L'argent qu'ils ont mis là, ils ne l'ont pas mis ailleurs. Mais ils ont fait ce choix. Si nous prétendons avoir une politique d'influence sans faire ce choix, sans faire ces arbitrages, on n'y arrivera pas.
Alors, finalement, on a beaucoup parlé d'influence, et peut-être c'est la question que j'aurais dû vous poser dès le départ, mais comme nous avons évoqué un certain nombre d'exemples, la définition tombe peut-être bien maintenant. C'est quoi, Frédéric Charrier, la définition de l'influence ?
L'influence, c'est de faire à quelqu'un d'autre ce qu'il n'aurait pas fait tout seul, sans utiliser la contrainte. C'est changer le comportement d'un tiers. Alors, ce tiers, ça peut être une élite quelque part, ça peut être un décideur, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une opinion publique plus large, mais en tout cas, faire changer le comportement d'un certain nombre de personnes sans utiliser la force physique ou la menace. Ça, c'est plus de l'influence, évidemment. Et Joseph Nye le dit d'ailleurs dans son livre à propos du soft power, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'influence. Il dit, si vous voulez faire changer quelqu'un de comportement, quels moyens avez-vous à votre disposition ? La menace physique, bien sûr, hein, brandir une arme sur lui en disant, si vous ne faites pas ça, je tire. Bon, ça, c'est pas de l'influence. Il reste deux autres possibilités. L'argent, c'est-à-dire la rémunération. C'est-à-dire combien voulez-vous pour faire ce que je vous demande ? Ou bien la conviction intellectuelle ou la séduction. Bon, alors, c'est là où c'est différent, c'est que Joseph Nye considère que la rémunération, c'est pas du soft power. Il dit le soft power, c'est uniquement la conviction intellectuelle, la séduction. Quand on parle d'influence, en réalité, on peut rajouter son deuxième pilier qui est la rémunération. On voit bien que l'influence des pays du Golfe, l'influence de la Chine, c'est la rémunération. On paye des gens, on paye pour avoir des relais, pour avoir des voix favorables. Donc, en fait, c'est ça. Voilà, l'influence, c'est de faire changer le comportement de quelqu'un. C'est très différent du rayonnement que nous adorons comme concept en France. Le rayonnement, c'est autre chose. C'est que le monde entier vous connaît, vous situe. Mais l'influence, c'est qu'à un moment précis, sur un dossier précis, on va vouloir changer un comportement dans le sens qui nous intéresse.
Et en Europe, le terme d'influence n'a pas forcément bonne presse. On vous retrouve, Frédéric Charrier, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Frédéric Charillon est notre invité pour son dernier ouvrage « Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits » paru aux éditions Odile Jacob. Frédéric Charillon est professeur des universités en sciences politiques à l'université Clermont-Auvergne et conseiller diplomatie et défense à l'ESSEC. Frédéric Charillon, on a terminé la première partie de l'émission sur la définition de l'influence qui est, je le disais, un terme que les Européens n'aiment pas beaucoup. C'est peut-être intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Et vous distinguiez la notion d'influence de celle de rayonnement.
Oui, le rayonnement, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en France. On parle du rayonnement de la France au sens d'être reconnu, d'être situé. On nous connaît, on apprécie notre culture, etc. L'influence, c'est pas simplement ça. L'influence, c'est qu'à un moment donné, on va demander à des pays de voter pour nous ou de ne pas voter au moins contre nous aux Nations Unies. C'est qu'on va demander à tel ou tel pays de nous ouvrir son espace aérien parce qu'on en a besoin. C'est d'autoriser une prise de participation d'une entreprise ou... C'est quelque chose de précis, l'influence. C'est pas comme le rayonnement qui fait plutôt référence à une espèce d'aura culturelle, de culture populaire ou c'est pas tout à fait la même chose. Alors en Europe, c'est vrai que l'influence, on n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce que... on sait pas d'ailleurs pourquoi, mais peut-être, c'est une hypothèse, parce que ça fait penser à quelque chose d'occulte. On compare ça, ou on le rapproche de façon erronée d'ailleurs, de la propagande. On considère que essayer d'influencer quelqu'un, c'est à la fois s'immiscer dans ses affaires, c'est le tromper, c'est avoir un agenda caché. Et puis surtout, voilà, ça fait référence à la propagande. Alors en réalité, c'est pas du tout la même chose. Parce que autant la propagande, c'est quelque chose qui fait appel à un réflexe naturel, qui essaye d'inhiber tout sens critique. La propagande, elle essaye, si je puis dire, de lobotomiser en quelque sorte des foules. L'influence, c'est tout le contraire. L'influence, on fait appel à l'intérêt bien compris de quelqu'un. On lui fait comprendre qu'il est de son intérêt de se rapprocher de nous. Mais voilà, pour toutes ces raisons, en Europe, nous n'aimons pas l'influence. C'est vrai que ça fait référence à des époques sombres, alors soit très très sombres, comme la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on confond ça avec propagande, soit un petit peu moins sombres, mais sombres quand même, parce qu'on parlait de sphères d'influence soviétique, notamment en Europe centrale et orientale, avec toute cette doctrine soviétique de souveraineté limitée. Donc on estime qu'avoir une influence sur quelqu'un, c'est déjà le manipuler, donc c'est pas compatible avec la démocratie libérale. Pour toutes ces raisons, je crois qu'on n'a pas bien compris que ce qu'on appelle l'influence, en réalité, c'est défendre ses intérêts en bonne intelligence.
Alors, défendre ses intérêts, on a un peu parlé de l'Europe, mais on va y rester davantage dans cette deuxième partie de l'émission. Frédéric Charillon, il y a eu une sorte de... Alors, l'Europe, on l'a... critique beaucoup pour sa naïveté, on l'a dit, végétarienne dans un monde de carnivores. Ce qu'on sent tout de même, c'est une sorte de réveil de l'Europe. On le voit vis-à-vis de la Chine, la 5G, on le voit avec la guerre en Ukraine, où finalement, on parlait des hommes politiques à la retraite qui agissent sous l'influence de la Russie pour certains, de la Chine pour d'autres. Moyennant rémunération, on est bien d'accord, c'est voilà ce que vous évoquiez précédemment. Quel regard portez-vous sur les politiques d'influence européennes ? Est-ce que la France, par exemple, a, selon vous, une politique d'influence ?
Alors, d'abord, sur l'Europe, en tant que tout, en tant qu'Union européenne, oui, il y a un réveil, mais c'est un réveil un peu en catastrophe. D'abord, c'est un réveil qui a été pratiquement ordonné, dans un premier temps, par les États-Unis.
Pour la 5G.
Pour la 5G notamment, c'est-à-dire la mise en garde contre l'influence chinoise et même russe en réalité. Regardons aujourd'hui dans quelle situation nous nous trouvons sur le plan énergétique et autres, alors que les États-Unis nous en prévenaient depuis très longtemps. L'histoire du gazoduc Nord Stream 2, etc. Les Américains, ça fait très longtemps qu'ils nous disent « attention, vous vous mettez entre les mains de Moscou ». Donc oui, on a un réveil, mais enfin c'est un réveil extrêmement brutal par la force des choses et souvent sous injonction américaine. Même vis-à-vis de Pékin aussi, il y a eu le Covid qui nous a montré à un moment qu'on n'avait pas de quoi nous-mêmes fabriquer des masques, des respirateurs, etc., etc. Donc c'est tous ces événements-là qui ont fini par nous convaincre qu'effectivement, ce serait peut-être pas mal de ne pas être trop sous influence extérieure. Bon, les Britanniques avaient anticipé un petit peu plus ça. Il y avait un rapport il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, du Parlement britannique sur l'influence russe principalement, mais qui concluait... Alors, qui font toute la liste de toutes les immixtions russes, aussi bien dans l'affaire du Brexit que dans l'élection américaine de 2016, etc. On aurait pu s'attendre à ce que la conclusion de ce rapport britannique soit « mais c'est ignoble, c'est épouvantable, c'est scandaleux ». Eh bien, pas du tout. La conclusion du rapport britannique, c'est de dire « mais ça, c'est la nouvelle norme ». Donc, ça ne sert à rien de pousser des cris d'orfraie. Nous sommes dans ce monde, donc il faut se battre, il faut s'adapter. Bon, alors, la France en particulier... Alors, la France essaye de... comme les autres, hein, d'agir. On a bien compris, comme tous les autres, si vous voulez, que vous avez énormément d'études, de livres, de reportages sur l'influence des autres en Europe, mais on n'en voit pas beaucoup sur l'influence de l'Europe chez les autres.
C'est parce qu'il n'y en a pas. Ou peu.
Alors, peut-être qu'on la sous-estime aussi. Je pense que si on demande à d'autres pays extérieurs, ils vont y voir aussi une influence européenne que nous sous-estimons. Et les Russes ont gardé à travers de la gorge quand même l'expansion de l'Union européenne, l'élargissement plutôt de l'Union européenne à des pays qui étaient socialistes il y a encore peu de temps. Donc, eux sont convaincus qu'il y a une force d'attractivité de l'Union européenne et que nous avons une influence. Mais nous ne voulons pas l'assumer comme telle. Alors, le cas français, il est un peu particulier. On est en train de se réveiller, nous aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une feuille de route sur l'influence qui a été rendue publique par le ministère des Affaires étrangères en décembre 2021. Donc, il n'y a pas très longtemps. Il y a récemment une semaine de l'influence qui a été organisée. Il y a une sorte de réveil. Alors, il y a plusieurs risques là-dedans. Il y a au moins trois risques. Le premier, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. L'influence, ça coûte cher. Donc, si on dit influence, mais qu'on ne met pas le prix... on n'aura pas de stratégie d'influence. Le deuxième risque, c'est que nous avons un certain nombre de travers français sur l'influence. D'abord, on considère, même si on ne le dit pas comme ça, que notre principal vecteur d'influence, c'est le président de la République. Ça, depuis le début de la Ve République, depuis le général de Gaulle, on a quand même très fortement tendance à considérer que le président de la République, sa popularité, son aura, son rayonnement, encore une fois, dans le monde, c'est ça notre principal vecteur d'influence. Il faut quand même à un moment qu'on comprenne que l'influence, ce sont des relais en dessous. Il faut toute une mécanique en dessous. Un voyage officiel où un président de la République se fait acclamer quelque part, hélas, alors c'est mieux que le contraire, évidemment, mais hélas, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvenons-nous de Jacques Chirac, acclamé dans le monde arabe, et notamment en Égypte, après son opposition à la guerre américaine en Irak, quelques mois ou quelques semaines plus tard, la France et Jacques Chirac étaient conspués dans les mêmes rues du Caire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu la loi sur le voile des jeunes filles musulmanes à l'école et que cette même France était conspuée. Donc l'influence, c'est toute une série de mécanismes. La deuxième chose, on l'a déjà dit, c'est qu'on préfère ce mot très flou de rayonnement. Et ça ne suffit pas. Et puis, on considère un peu trop souvent que l'influence, ça se décrète. Voilà, on se souvient dans la campagne présidentielle, la dernière, celle de 2022, on se souvient de quelques candidats à la primaire, pas à la présidence, mais à la primaire, qui disaient « si je suis élu, je créerai un grand ministère de l'influence française ». Ça, c'est assez typique. Alors, ce n'était pas pourtant les plus idiots qui disaient ça, et certainement parmi ceux qui pourtant connaissaient le mieux toutes ces questions, mais ça ne se décrète pas, l'influence. Et ça, il faut qu'on, dans ce pays très centralisé qu'est la France, il faut bien qu'on le comprenne. On ne devient pas influent parce qu'on vient de créer une direction de l'influence. Mmh. On ne peut pas dire depuis ce matin, nous sommes influents car nous avons créé un bureau de l'influence. Ce n'est pas ça. L'influence, ça se fait sur le long terme. On investit, il faut gagner la confiance de l'autre, il faut être légitime, il faut avoir des réseaux, c'est très long et ça coûte cher.
Ouais, donc une stratégie très long-termiste pour l'influence. Alors, dans votre ouvrage, j'aimerais peut-être, pour que les choses soient assez claires pour nos auditeurs, vous évoquez trois pratiques qui se donnent à voir sur la scène internationale en termes d'influence. Alors, du côté des démocraties libérales, c'est opération de séduction, mais ça suffit peut-être pas. Déstabilisation autoritaire dans les régimes autoritaires où là il s'agit de, en fait c'est la capacité de nuisance qui joue le plus dans ces régimes politiques, c'est faire douter les sociétés des régimes démocratiques, et puis la croyance rémunérée, là vous vous tournez vers les pays du Golfe qui jouent la carte des réseaux religieux.
Oui, alors effectivement c'est très important de comprendre que ce qu'on appelle l'influence ou la façon dont on la pratique ne va pas être la même partout. C'est vrai que les démocraties libérales considèrent qu'être influent c'est convaincre l'autre, c'est séduire par son modèle. C'est ce qui a fonctionné avec les États-Unis. Les États-Unis font ça très bien, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, ils irriguent le monde d'un modèle de société qui attire aussi bien les élites pour aller dans les grandes universités américaines, pour aller travailler aux États-Unis, pour avoir la green card, etc., que les classes populaires ou ce qu'on appelle la culture populaire à travers une vitrine qui est Hollywood, qui est le cinéma, qui sont les séries, etc. Bon, alors on surestime un petit peu ce pouvoir là aux États-Unis, parce qu'on croit toujours que parce que à l'étranger des gens adorent les joueurs de basket ou les actrices américaines, ils vont aimer le modèle politique américain. C'est un peu illusoire. Bon, c'est vrai que en cela vous avez raison, ça n'est pas suffisant. Mais ce modèle-là, il a bien fonctionné. Et il est repris d'ailleurs par d'autres démocraties ailleurs qu'aux États-Unis.
Vous aujourd'hui, pensez à l'Australie ?
Je pense à l'Australie qui attire beaucoup d'étudiants du monde entier, mais aussi en Asie, la Corée du Sud. Mm. La Corée du Sud est aujourd'hui un modèle d'influence démocratique. La langue coréenne se répand partout en Asie. Il y a un modèle économique coréen. Bon, ça, c'est la version en fait, démocratique libérale. On veut essayer de convaincre les autres que notre modèle est le bon, qu'il est celui qui rendra les gens le plus heureux et ou les plus épanouis professionnellement. Et donc, c'est ça l'influence. Et on part du principe qu'à partir du moment où les gens reconnaîtront ça, ils vont se rallier à nous. Ce qui est parfois un petit peu illusoire. Mmh. Après tout, je veux dire, et nous, on rajoute à ça la francophonie, en pensant que quand on est francophone, on aime parfaitement la France. Bon, c'est pas certain. Mmh. Ho Chi Minh était un excellent francophone. Bon. Le deuxième modèle, autoritaire, lui, va concevoir l'influence comme une déstabilisation de l'autre. On va pas forcément essayer de dire, regardez comme nous sommes beaux. On va faire douter les autres. On va faire douter les opinions publiques, d'ailleurs, surtout des démocraties. Alors, est-ce que vous êtes bien sûr que vous êtes en démocratie ? Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien ? Regardez quand même ces images, regardez ces histoires de gilets jaunes, regardez les poubelles qui ne sont pas ramassées, regardez, c'est un peu l'anarchie quand même, votre histoire. Bon, c'est ça, c'est faire douter les autres du bien fondé de la démocratie libérale. Et puis alors après, il y a des modèles plus spécifiques. J'en ai développé un dans l'ouvrage qui était le modèle des pays du Golfe, qui s'appuie à la fois sur la religion et sur, évidemment, des capacités financières énormes dues à la rente énergétique. Et là, il s'agit de s'adresser à un public particulier, qui est une communauté de croyants, sur lesquels on va essayer d'avoir une emprise intellectuelle et spirituelle, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de très fort quand on a une emprise spirituelle et religieuse, mais le tout, évidemment, irrigué par beaucoup, beaucoup d'argent. On retrouve notre histoire d'argent et de moyens. Il y en a d'autres, mais voilà, il y a plusieurs modèles possibles de l'influence. Il ne faut pas penser que l'influence, c'est uniquement le soft power à l'américaine qui consiste à dire, à faire dire aux autres « Ah oui, vous avez raison, c'est quand même une société merveilleuse que vous avez, comme j'aimerais y vivre. » Ce n'est pas uniquement ça.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Donc plusieurs modèles, on l'a compris. Venons-en maintenant au terrain d'intervention, tout à fait intéressant. Vous les citez, il y en a quatre d'après vous, je les nomme. Médias et réseaux sociaux, ce sera intéressant de voir comment la Chine est parvenue à isoler de l'Internet mondial son milliard d'usagers, elle qui par ailleurs utilise à l'international ces mêmes réseaux qu'elle bannit chez elle. Donc médias et réseaux sociaux, culture, enseignement supérieur et liberté académique, vous parliez des États-Unis et de l'attraction des États-Unis pour les étudiants, je cite le cas de la Chine, 700 000 étudiants à l'étranger, dont plus de la moitié se trouvent aux États-Unis. Influence et entrisme, l'action des normes et puis exportation clé en main de technologies de contrôle et de surveillance. Je pense que c'est important pour nos auditeurs de vraiment comprendre ces terrains d'intervention qui sont utilisés pour...
D'abord, tout ce qui est intellectuel, effectivement, est crucial. J'inclus bien sûr là-dedans tout ce qui est médiatique et source d'information, parce que ça va agir sur les esprits. Et aujourd'hui, nous savons que les réseaux sociaux ont pris une place extrêmement importante comme source d'information, et nous savons que les jeunes en particulier sont un public qui s'informe beaucoup via les réseaux sociaux. Ce n'est pas un public qui va acheter son journal le matin, c'est un public qui va regarder son smartphone et qui va regarder plutôt via un certain nombre de réseaux sociaux ce qu'il va trouver sur l'actualité, sans d'ailleurs toujours faire le tri. Et ça n'a pas échappé, évidemment, à un certain nombre de personnes et de pays, le fait que ces gens ne font pas le tri et qu'ils ils regardent ce qu'ils trouvent en premier. Et dans cette fibre-là, le succès des médias russes qu'on a interdits, et ça a été confirmé il y a très peu de temps, l'interdiction de RT et de Spoutnik aussi, d'ailleurs.
En France.
Mais en France et dans l'Union européenne, c'était quand même un succès sur le qui fait réfléchir. Parce que, souvenons-nous, quand ce n'était pas interdit, on ne pouvait pas faire une recherche Internet sans trouver quasiment en tête de toutes les recherches des sources qui étaient RT ou Spoutnik. Et ça, c'est quand même un savoir-faire assez redoutable en matière d'influence. L'éducation et les universités aussi, évidemment, il y a une compétition féroce dans le monde pour la formation des esprits. Alors les Chinois, notamment, investissent beaucoup en Afrique et offrent, là encore, avec beaucoup d'argent, des bourses d'études à beaucoup de journalistes africains pour leur inculquer ce qu'ils appellent être le bon journalisme honnête, c'est-à-dire un traitement médiatique pro-chinois en réalité, où il ne sera plus question de Taïwan, où il ne sera jamais question des Ouïghours, etc., etc. Et puis bien sûr, la compétition pour les grandes universités. Parce que forcément, avoir la possibilité de former les esprits de ceux qui seront les futurs décideurs, c'est un investissement sur l'avenir. Regardons comment, dans un pays comme la France, il y a eu des modes intellectuels dans certaines universités qui ont changé un peu le cours de notre politique étrangère. Christian Lequesne en dit un mot dans son ouvrage Ethnographie du Quai d'Orsay. La plupart des diplomates, beaucoup de diplomates français ont été formés entre autres à Sciences Po. Sciences Po avait beaucoup d'échanges avec les États-Unis et le monde anglo-saxon à un moment. Il en a résulté une génération de diplomates beaucoup plus favorable au monde anglo-saxon, ce qu'on appelait à tort, à mon avis, les néoconservateurs à la française, à un moment, mais en tout cas beaucoup plus perméable aux idées américaines. Aujourd'hui, ces universités ou d'autres sont au contraire, on a l'impression qu'il y a un retour de balancier. Certains appellent ça le wokisme ou d'autres, ou au contraire, on va retrouver un petit peu ce qu'on a appelé le tiers-mondisme en d'autres époques, ou en tout cas, c'est un peu l'inverse, en tout cas, de la tendance précédente. Tout ça a évidemment un impact très fort sur la politique étrangère. La formation des esprits, des idéologies, regardez les élections présidentielles françaises, ça fait quand même deux fois de suite que sur les quatre candidats arrivés en tête, vous en avez trois qui se sentent très proches de Vladimir Poutine. Alors c'est l'autre qui a gagné dans les deux cas, mais les trois autres sont quand même acquis à ça.
Alors le temps passe affreusement vite, Frédéric Charillon, j'avais trois questions, mais il nous reste un peu plus de deux minutes.
On va faire 45 secondes.
Oui. Est-ce que la capacité américaine à livrer cette bataille de l'influence vous semble aujourd'hui encore forte? Et vous évoquez une notion que je trouve particulièrement intéressante dans cette bataille de l'influence. Vous dites que c'est aussi une bataille pour les valeurs qui est engagée, entre plusieurs modèles politiques, et qui converge vers une opposition entre démocratie libérale et autoritarisme, avec cette question, quelle issue?
Alors d'abord, les États-Unis ont gardé tous leurs moyens et leurs outils d'influence, mais ils ont été extrêmement atteints par la période Trump, qui pourrait d'ailleurs revenir. À partir du moment où on a un président américain qui dit « moi je ne veux plus servir de modèle aux autres, les autres ne m'intéressent pas et d'ailleurs je ne les aime pas », évidemment ça met par terre des décennies de stratégies d'influence. Ensuite, la question des valeurs. Les valeurs, ça ne peut pas s'opposer aux intérêts. C'est idiot d'opposer les valeurs et les intérêts. D'ailleurs, c'est idiot de prétendre qu'on fait une politique étrangère au nom des valeurs et pas au nom des intérêts. Comment pourrions-nous défendre nos intérêts dans un monde qui serait dominé par des puissances qui ont des valeurs opposées aux nôtres? Comment auriez-vous voulu qu'on défende nos intérêts si le Japon et l'Allemagne avaient gagné la Seconde Guerre mondiale? Donc oui, bien sûr que la question de l'influence, c'est aussi une question de valeurs, mais les valeurs, faire triompher nos valeurs, c'est faire triompher nos intérêts.
Et alors, il y avait une autre question, c'est la place de la vérité dans l'influence.
Alors la vérité revient. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a parlé de post-vérité, parce qu'on a eu des populistes au pouvoir comme Donald Trump ou d'autres qui ont fait le pari qu'on pouvait raconter n'importe quoi aux gens, ça n'avait absolument aucune importance du moment que ça créait une émotion sur le moment. Et puis il y a eu la pandémie. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Et ça, on ne triche pas avec des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut tricher sur des chiffres, on peut dire le changement climatique, ça n'existe pas vraiment, etc. Quand vous avez une pandémie et que vous avez des gens qui meurent par paquets, c'est assez difficile de prétendre que ça n'existe pas. Quand vous avez une guerre en Ukraine, c'est assez difficile de prétendre qu'elle n'existe pas. Donc on a eu une période où la vérité n'était plus au centre des enjeux. C'était plus dire la vérité qui faisait qu'on était légitime. Là, il s'est passé un certain nombre de choses suffisamment graves pour que la vérité revienne au centre du jeu.
Frédéric Charillon, une dernière question. Vous évoquez les valeurs, vous évoquez les intérêts. Que vous inspire la visite du numéro 1 d'Arabie Saoudite en France cette fin de semaine?
C'est très intéressant, parce que d'ailleurs c'est la même chose pour les États-Unis. Plus encore pour les États-Unis, parce que Biden avait traité Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, de paria. Et là, la situation internationale, énergétique et autres, fait qu'il est bien obligé de traiter avec lui. C'est pas la première fois que les États-Unis concilient ou adaptent très largement leurs valeurs aux intérêts géopolitiques. Nous, on n'est pas allé aussi loin qu'eux, on n'a jamais traité MBS de paria, mais là, on voit bien qu'on franchit un pas de plus vers la normalisation de son statut. On pourrait d'ailleurs parler aussi au Moyen-Orient du retour de Bachar el-Assad dans le circuit diplomatique arabe. Donc c'est là qu'on voit souvent qu'effectivement, à tort, on bafoue un petit peu les valeurs. Mais cela dit, il ne faut pas trop le regretter, parce que la diplomatie, c'est aussi parler avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Si on estime que la diplomatie s'est fait uniquement pour parler avec les gens qu'on aime bien et qui disent la même chose que nous, ça n'a plus beaucoup de sens.
Merci Frédéric Charillon. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'Université Clermont-Auvergne et conseiller diplomatie et défense à l'ESSEC. Et votre dernier livre, paru aux éditions Odile Jacob, Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits géopolitiques, était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavelot et Nathalie Laporte. À très bientôt.